quiconque te dicte ta conduite, en dénigrant son meilleur ami au passage, alors que, justement, c'est bien parce qu'il était mon meilleur ami que je savais de quoi je parlais. J'étais là aux premières loges depuis le début de notre vie sexuelle de jeune homme, laquelle, je dois le concéder à regret, aurait été bien différente, voire, comme celle de nos malheureux ancêtres, à peu près inexistante ou réduite à la morne pratique de l'onanisme sans le fléau du tourisme qui, bien que détestable, jetait cependant sur nos rivages un nombre suffisant de jeunes femmes de toutes origines, pour que nous ayons la certitude statistique d'y trouver des partenaires qui nous suivraient dans une des bergeries que Philippe réservait à cet usage, et dont je devais profiter moi aussi parce que ma mère prohibait toute copulation illégitime sous le toit familial. Dieu sait pourtant que j'aurais préféré ne pas avoir à supporter la présence extrêmement sonore, au point que cela en devenait vexant pour moi, de Philippe et de sa compagne du moment dans la chambre à côté, d'autant qu'à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il finissait par faire irruption dans la mienne, encore suant et complètement à poil, et la fille allongée à côté de moi tremblait de terreur et me jetait les bras autour du cou en entendant grincer les gonds de la porte qui s'entrebâillaient pour laisser apparaître à contre-jour la silhouette athlétique de Philippe dont l'ombre déformée se projetait sur le mur blanc, comme celle d'un monstre de conte de fées dans une version priapique, sa grosse queue déjà turgescente dodelinant d'un air menaçant, et il tapait dans ses mains en s'exclamant joyeusement « Allez, on change, laisse-moi celle-là, elle va niquer la mienne !» Et la pauvre fille m'étreignait à m'étrangler, craignant sans doute d'être tombée entre les mains de deux psychopathes. Se rassurant peu à peu en m'entendant répondre « Mais non, on ne change pas, tu vois bien qu'elle veut pas, et moi non plus d'ailleurs je veux pas », réponse qui déchaînait chez Philippe un flot de protestations et d'arguments de mauvaise foi que je faisais cesser en gueulant « Mais casse-toi putain, casse-toi » jusqu'à ce qu'il batte en retraite et claque la porte en me traitant d'égoïste, tandis que la fille, maintenant tout à fait rassurée, m'embrassait en me disant « Merci, merci, il m'a fait si peur ». Et voilà donc ce que je savais de Philippe, moi, et que je te racontais en détail pour que tu ne puisses plus feindre de l'ignorer, mais que je te racontais au fond, en pure perte, parce que tu ne voulais rien entendre, tu ne me croyais pas, ou bien tu consentais mollement à me croire, mais prétendais que son mépris absolu, sa grossièreté, sa totale incapacité à attribuer une vie intérieure faite comme la sienne de désirs, de désespoir, de projets et de craintes à d'autres êtres humains concernait les touristes en général. Comme si c'était acceptable ou insignifiant, et pas les femmes, ou du moins pas toi, qu'il traitait, prétendais-tu, avec respect et considération. Mais je ne pouvais chasser de mon esprit l'image de son sexe reptilien forçant tes chairs délicieuses, sans que tu t'en offusques, et même en t'en réjouissant aussi bruyamment que les filles de la chambre à côté dans la bergerie, et ça me donnait envie de pleurer. C'est moi, cette fois, qui ne voulais pas y croire, jusqu'à ce que ta grossesse ne me laisse plus d'autre choix que d'y croire. L'hypothèse d'une immaculée conception, un léger souffle divin fécondant ton corps de myrrhe et de jasmin étant, hélas, à exclure. Et au lieu de prendre la mesure de la catastrophe et de vous précipiter à la clinique la plus proche pour y mettre un terme, vous vous êtes réjoui, toi et l'heureux père qui, comme de juste, mit élégamment un terme à votre relation, quoique tu m'aies faussement assuré qu'il s'agissait d'une décision commune alors que tu étais enceinte de 8 mois et soutenais encore avec une obstination insensée que ça ne changeait rien et qu'il serait toujours là pour toi et pour l'enfant dont j'espérais alors au moins que ce serait une fille, mais évidemment, ce fut un garçon, un gros bébé rougeau et replet qui exhibait sans pudeur au-dessus de la poche écarlate du scrotum, une verge hideusement disproportionnée en gigotant dans le berceau sur lequel devaient se pencher déjà 3 sorcières ricanantes. Plus rien ne pouvait donc être évité. Pendant cette nuit du mois d'août, 23 ans plus tard, après être passé chez lui à récupérer dans sa collection un wakizashi de pacotis, sans doute fabriqué en série dans une usine chinoise, mais muni d'une lame meurtrière de 30 cm, Alexandre s'était mis en route, l'esprit libéré et le cœur empli d'une fureur joyeuse, me dirait-il plus tard quand j'irai le voir à la maison d'arrêt, en sachant clairement, après des heures passées dans les tourments de l'insomnie, ce qui lui incombait d'accomplir, qui était juste et bon et sain. On raconte encore, au cours d'une des nuits qui suivirent le départ du capitaine Richard Francis Burton de Harar, le sultan Ahmad Ibn Aboubakar se réveilla en sueur, la poitrine déchirée par une interminable quinte de toux, et plus encore par la honte d'avoir causé la ruine de la ville sainte en laissant repartir sain et sauf l'étranger qui avait passé la porte bleue de son palais, ce que tous les souverains, ses ancêtres, désormais privés de postérité,